Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Laissons-nous porter.
Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, nous allons parler des rencontres de Luc avec Christian Le Corvic. Bonjour.
Bonjour Baptiste.
Également accompagné de Alain Livache, un des conférenciers. Bonjour également.
Bonjour.
On en parlera après. Les rencontres de Luc, Christian, est-ce que tu peux faire un petit rappel pour les auditrices et auditeurs qui écoutent RDWA pour la première fois?
Oui, il y a beaucoup de gens qui s'installent dans RDWA dont certains ne connaissent pas RDWA. Peut-être d'ailleurs, ils sont en train de le découvrir à l'instant. Et de voir effectivement qu'il y a des gens qui parlent dans un micro pour venir présenter ce qu'ils appellent les rencontres de Luc, qui commence sa 4e saison. Donc on sait qu'actuellement, les gens adorent les séries. Donc vous pouvez d'ailleurs écouter, pour ceux qui vont peut-être découvrir ces prochaines conférences qui feront partie de la 4e saison, les conférences sur Radio DIY. Toutes les audios des 3 saisons précédentes sont encore disponibles. Donc ça vous permettra de voir la tenue, la qualité des intervenants et je crois aussi l'intérêt que le public donne à entendre, c'est-à-dire dans les questions qui sont posées à ces occasions. Donc voilà, 4e saison que nous allons inaugurer le vendredi 11 octobre avec la venue de Denis Lachaud, qui est écrivain et dramaturge.
Donc le principe est simple, c'est un cycle de conférences dans lequel vous sélectionnez des conférenciers. Et puis, c'est un peu ça la particularité, là tu l'évoquais, c'est qu'après on peut se poser des questions. Alors, en général, ça dure presque autant de temps que la conférence elle-même.
Je crois que tu es bien placé pour le savoir.
Bah, oui. Mais c'est aussi ce qui en fait l'intérêt justement de ces conférences. Tu as vu comme ça progresser sur les 3 ans l'intérêt pour questionner justement?
Oui, je crois. Après, avec le temps, il y a des gens qui sont des habitués. Donc, la parole, c'est pas simple, la parole en public, tout le monde le sait. On la pratique plus ou moins et on a des personnalités peut-être plus à même de le faire. Certains sont plus inquiets, plus inhibés. Et le fait d'y être fréquemment, ça leur offre la possibilité à certains moments de poser des questions. La question qui, peut-être 6 mois avant, trouvait stupide, devient peut-être pas plus intelligente, mais il s'autorise à la poser. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est surtout l'objectif. L'objectif, c'est pas c'est d'ouvrir des portes, de permettre à des gens de découvrir certains univers et ensuite d'approfondir à travers leurs propres recherches personnelles, de travailler sur de nouveaux aspects de la question qui a été évoquée. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une très grande diversité de sujets. Parce qu'il m'apparaît très important de mettre en rapport des choses qui paraissent éloignées, mais qui ne le sont jamais pour moi. C'est ce que j'appellerais la transversalité permanente. Voilà, pour moi, Denis Lachaud, par exemple, à travers ce qu'il écrit dans ses romans, parle de la société contemporaine et la lecture qu'il fera, et là je l'évoquerai tout à l'heure un petit peu, puisque avec Alain, on va inaugurer cette année une forme de décentralisation des rencontres de Luc. Ce qu'il vient évoquer le samedi 12 octobre à travers une lecture d'une de ses pièces qui s'appelle La Magie Lente est un sujet extrêmement contemporain dans notre société. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir des sujets les plus divers possibles, mais qui soient aussi des choses qui interrogent les gens. C'est surtout ça, moi. Je crois qu'il y a une phrase qui me vient et qui vient en écho d'ailleurs avec ce que je vais en lire deux. Pour ceux qui ont l'occasion de regarder le journal d'Arte, généralement ça se termine par rester curieux. Et je vais vous lire une phrase que j'ai mis en exergue de la présentation des rencontres, qui est « Le savoir n'est jamais complet, il va toujours de pair avec l'ignorance ». Parce que je pense que nous avons tous une part de connaissance, une grande part d'ignorance en ce qui me concerne. Donc les rencontres déjà me satisfont énormément, personnellement.
Alain, sur le fait que le public puisse poser des questions, est-ce que c'est quelque chose qui se pratique souvent, qui est apprécié par le conférencier, qui a du sens?
Oui, bien sûr, c'est même essentiel. Dans le cycle de conférences qu'on a imaginé avec Christian, ce seront des conférences débats Et d'autant plus qu'on sait que l'art contemporain, c'est-à-dire les arts plastiques visuels actuels, suscitent un grand nombre de polémiques, souvent de réticences, de questionnements. Et là, le parti pris, justement, pour ces conférences de sensibilisation à l'art contemporain sera d'aborder franchement les légitimes difficultés que nos concitoyens rencontrent pour aborder un art contemporain qui souvent véhicule, dont l'approche est souvent parsemée d'idées reçues ou d'une relation, par exemple, avec le fric. L'art contemporain serait qu'un problème, ne générerait que des spéculations complètement aberrantes. Et on entend beaucoup parler en ce moment de la fameuse tulipe à Paris de Jeff Koons, etc. Phénomène-là, il concerne 5% de la création contemporaine en art plastique et on a envie justement de donner quelques outils pour en favoriser la découverte, quitte à ensuite à chacun d'aiguiser son espace critique.
Comment sont faites les sélections, Christian ?
On ne sélectionne personne, monsieur.
Ah ! au moins, si, tu as dit tout à l'heure, il y avait une grande. On essaye d'avoir la plus grande diversité de sujets, donc ça veut dire qu'au moins on en refuse pour dire on voudrait diversifier. Oui, au pire.
Ça se fait naturellement, en fin de compte. Tu crois qu'il n'y a pas. Oui, oui. Non, mais ce qu'il peut y avoir maintenant, puisque c'est la quatrième saison, donc là, il y a un vivier depuis quatre saisons d'un certain nombre de conférenciers. Certains sont venus. À deux reprises, certains ne sont venus qu'une fois, pour certains je le regrette d'ailleurs, mais il y a un public important, mais il y a aussi un nombre de conférenciers potentiellement importants. Spontanément, des gens viennent me dire « je connais un tel qui est susceptible de pouvoir donner une conférence ».
Dans le public donc ?
Dans le public, ouais. Ou des gens qui sont venus à au moins deux reprises, un l'année dernière et un cette année, qui sont venus me dire « moi je peux me présenter des sujets qui pourrait faire conférence. Donc voilà, il y a pas de. Donc je joue un petit peu sur la diversité, sur la permanence aussi, parce qu'il y a un certain nombre de conférenciers qui reviennent pour la troisième année, en l'occurrence, mais qui sont pratiquement locaux, puisqu'ils habitent Valence. C'est Laurence Croton et c'est Alain Chaffel. Et cette année, on aura, au-delà de la présence d'Alain qui habite à Valdrome, la présence de deux Diois. Qui sont Yves Bergeret et Marc Courtieux, qui habitent Die. Donc, on a aussi ici des gens qui sont, entre guillemets, des intellectuels. Quand je dis ça, c'est ni péjoratif ni admiratif.
En tout cas, maître de conférence.
Maître de conférence pour certains, mais ayant aussi des trajets particuliers. Marc est professeur de mathématiques à l'origine et il est devenu docteur en lettres. Donc, des gens aussi qui ont des parcours atypiques. Le parcours aussi divergerait est assez atypique. Donc aussi des gens qui à mon avis aussi, de mon point de vue, m'intéressent. Parce que voilà, c'est aussi comment on est un élément qui peut être recevoir énormément de choses, énormément d'informations et comme on dit que le cerveau est plastique, être capable de se redéfinir autrement. Bon voilà. Donc Denis Lachaud, c'est une rencontre que j'ai faite il y a 3 ans sur Paris, par l'intermédiaire d'amis. Et ses amis m'ont dit, tiens, Denis, ce serait peut-être quelqu'un qui serait intéressé pour être conférencier. Donc les choses se sont faites très naturellement. Bah oui, d'accord, je viens. Et voilà, ça se fait tout aussi simplement que ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté. Étant donné que financièrement, on ne peut pas satisfaire... Chose qui ne s'est jamais posée jusqu'à présent. Aucun conférencier n'a demandé à être payé. Mais ça, on leur paye simplement les frais de déplacement et on les
une bonne bouffe à Charins.
Voilà. Et puis, on peut les loger pour certains.
Je note quand même. Voilà.
Éventuellement à Charins et ailleurs, surtout. Parce qu'on on a des tables ailleurs. Ah oui, on ouvre des tables ailleurs.
Ouais.
Voilà, on va faire le tour des tables des conférences. Voilà. Non, ça se limite à ça. Donc, généralement, c'est des gens qui sont dans, je crois, ce que j'avais déjà évoqué l'année dernière, ce que je veux redire cette année, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. On s'aperçoit que c'est des gens qui sont extrêmement disponibles et prêts à partager avec d'autres des savoirs et surtout à les mettre à la disposition des plus humbles, si je puis m'exprimer ainsi. Et je me classe dans cette classe-là. Des gens qui ne sont pas des spécialistes. Et donc, ils arrivent à montrer de manière extrêmement claire, de mon point de vue, un sujet et le mettre à la portée de chacun. Donc, voilà. Donc, moi, quand je dis Denis Lachaud, je pourrais parler de Yves Bergeret, puisque je venais l'évoquer, qui viendra nous parler des Dogons, puisque Yves Bergeret a visité une tribu Dogon en particulier pendant 10 ans, et donc il vient nous parler de cette expérience. Donc voilà, ça, on voit déjà un sujet qui paraît bien loin de Denis Lachaud, et pourtant on va parler de culture, et Denis Lachaud viendra nous parler de quelque chose qui nous environne aussi, nécessairement. Mais je ne vais pas faire un lien qui pourrait être un peu oiseux, ou alors nous emmener des travers qui vont risquer de me faire continuer à prendre la parole de manière excessive.
Mais du coup, il n'y a pas de sujet
tabou
qui t'apparaît tabou. Certes non, mais qui t'apparaît comme étant obligatoire et manquant enfin voilà, quelque chose qu'il faudrait ramener à un moment donné, ou par exemple quand il y a eu des faits d'actualité, est-ce que ça n'a pas influé aussi un peu?
Alors, ça c'est presque, tu vois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un d'ailleurs qui participera de manière indirecte aux conférences, puisque c'est quelqu'un que certains connaissent, qui s'appelle Jean Rodalec, qui est psychanalyste et qui sera présent lors de la lecture de Denis Lachaud, la lecture publique donc de sa pièce qui s'appelle La Magie Lente. Moi, j'ai tendance justement à vouloir me dire, pour permettre aux gens de réfléchir, il faut que l'objet soit un peu éloigné. Autrement, on est dans les phares, on est dans l'émotion. Donc il faut mettre une sorte de distance de manière à ce que ce soit un objet sur lequel on réfléchisse. Alors après, là, cette année, c'est vrai que les arts, alors ça s'est fait assez fortuitement, mais c'est vrai que les arts sont très présents, puisqu'on va parler de couleurs avec Marc Courtieu, on va parler de Nicolas Destal avec Laurence Croton, et on va parler de Pieter Bruegel avec Laurent Beauve. Donc voilà, et si j'ajoute les deux conférences d'Alain, on va être dans un univers qui paraît très éloigné. Pour moi, tout ça va de pair. Et je dirais même que ça peut nous détendre par rapport aux sujets criants qui sont ceux de notre société, mais qui sont, de mon point de vue, souvent développés de manière terrorisante et terrifiante. Et pour réfléchir, ce n'est pas dans l'angoisse qu'on réfléchit, c'est dans la sérénité, si tant est que ce soit possible, en tous les cas. Se donner les outils, les objets pour ça.
Alain, on va se concentrer un peu sur ce parcours de conférencier. Alors d'abord, devient-on conférencier? Est-ce que tu es un intellectuel, comme le disait...
Je ne sais pas si je suis un intellectuel. En tout cas, mon métier, c'est d'être conseil en ingénierie culturelle pour l'art contemporain en particulier. Donc c'est un gros mot. Et donc je développe à titre professionnel, mais surtout hors d'Iowa, dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, à la fois du conseil pour les collectivités locales et territoriales, pour l'aide à la définition des politiques en matière d'art plastique, mais aussi du commissariat d'exposition de la direction artistique. Et puis des conférences, des formations ou du professorat. Voilà, mais là, ma présence dans cette programmation presque d'une université populaire qui ne veut pas dire son nom, mais qui mériterait d'en avoir le drapeau, on va dire, ma programmation, elle se situe bien aussi dans mon ancrage. J'habite en permanence à Valdrome, au bout du bout du bout du bout du bout du bout du Diwa.
Il y a la bâtie des fonds derrière.
Et il y a la bâtie des fonds, juste à gauche, aux sources de la Drôme, quasiment. Non, ça part bien de cet ancrage, parce qu'on peut partir du constat suivant concernant la vie culturelle du Diwa. Cette vie culturelle, elle est extrêmement riche en matière de théâtre, en matière de spectacle vivant. On a même la chance d'avoir un niveau d'équipement, un niveau de présence d'artistes exceptionnel par rapport à nos 12 000 petits habitants du Diwa. On a la chance d'avoir le Pestel, un cinéma d'art et d'essai, où on peut voir l'excellence du cinéma d'auteur. On a une école de musique, on a une médiathèque, une nouvelle médiathèque magnifique et immense. Et puis si on aborde le champ des arts plastiques, et en particulier de l'art contemporain, ceux qui sont dans des formes les plus actuelles, là, le constat est beaucoup plus mitigé, pour pas dire, à mon sens, accablant. Bien sûr, il existe des choses. Il y a des expositions d'été, des expositions d'événements. Heureusement, il y a des artistes qui vivent dans le Diwa, mais globalement, on ne retrouve pas du tout la même possibilité pour le grand public d'accéder, en termes d'information, à ce qu'est la création d'art plastique actuel. On a cette possibilité pour tous les autres champs artistiques, sauf pour les arts plastiques. Donc, la petite idée qu'on a derrière la tête, c'est d'avoir une petite approche progressive pour poser cette question. Quelle est la place dont, collectivement, on a envie ou qu'on pourrait inventer pour l'art contemporain dans le Diwa? Et donc, on s'est dit qu'on allait d'abord se dire, mais au fond, c'est quoi l'art contemporain ? Au-delà des préjugés, des idées reçues qu'on peut avoir, au-delà des sentiments d'échec que l'on peut avoir vis-à-vis de l'art contemporain, c'est déjà d'identifier ce qu'on entend par art contemporain, de quoi c'est fait, par quelle en est l'apparence. Et puis ensuite, d'essayer d'identifier dans chacun de nous quelles sont les résistances qui opèrent vis-à-vis de l'art contemporain. On trouve ça un télo, on pense que c'est fait de rien, on pense...
Parfois, on ne comprend pas, moi je ne comprends pas.
Etc. Enfin bref, essayez justement de décoder quelque chose qui est au demeurant beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Moi, je dis toujours que l'art contemporain n'est pas réservé du tout à une élite et qui mérite d'être populaire. Mais ça, c'est un propos, et j'entendais tout à l'heure le propos fortement d'éducation populaire de Christian. Notre position, ma position, s'inscrit dans ce champ de l'éducation populaire. Il y a un paradoxe vis-à-vis de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on peut se dire que les formes d'art plastique actuel, qu'on range sous la dénomination art contemporain, jamais, aujourd'hui, elles ne nous ont autant parlé de ce qui nous concerne profondément, tous à titre individuel ou collectif. Jamais les arts plastiques n'ont autant parlé d'environnement, de politique, de sexe, d'économie, de poésie, que sais-je encore, tout ce qui brasse notre vie, notre devenir, l'art contemporain en parle comme jamais dans l'histoire de l'art. Et en même temps, le paradoxe est que les formes que depuis maintenant presque 120 ans, les arts plastiques ont pris, et en particulier depuis les années 60, jamais les formes avec lesquelles ces messages ou ces contenus sont dits n'ont été aussi difficiles à appréhender par le grand public. Donc il y a un travail justement à faire pour permettre à un grand public, et il en faut très peu, généralement, de se connecter avec quelque chose qui peut être réellement passionnant. Je vous le jure, réellement passionnant.
Ah, je vais enfoncer une porte. Les arts ont été contemporains à chaque fois, à leur époque.
Bien sûr.
Est-ce qu'ils ont toujours été compris et ils étaient déjà critiques ? Critiques et en même temps complètement ancrés dans leur époque.
Et bien sûr, on peut prendre par exemple l'impressionnisme. Aujourd'hui, l'impressionnisme est synonyme de sensibilité, de poésie. Je veux dire, il y a à peu près, si on fait un référendum, 98% de nos contemporains vont voter impressionnisme. Si on se remet au moment même de l'apparition de l'impressionniste, des impressionnistes, les impressionnistes étaient considérés comme des intellos, des grabouilleurs, des subversifs et n'ont pas du tout été compris. Ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps à avoir même cette image, mais qui n'est même pas très réelle, de quelque chose de diffus, de poétique. Lorsque Monet fait entrer dans la gare Saint-Lazare la locomotive, aujourd'hui, on a une impression nostalgique, patrimoine, de quelque chose de très poétique. À l'époque, c'était la foi de Monet dans le progrès technologique. C'était un moment où le progrès technologique était relayé l'idée du progressisme social, l'idée de la progression de la société. Et donc, ce n'était pas du tout bien vu qu'un artiste puisse prendre ce sujet-là et puisse valoriser une machine dans une gare qui était en plus une gare du dernier cri architectural. Donc, en effet, par sa nature même, l'art contemporain est toujours en décalage avec une absorption de la société. Mais il y a un enjeu démocratique à réduire l'écart entre un art contemporain qui nous parle de notre époque et nos concitoyens qui ont droit à cette expression-là pour pouvoir l'approcher. Et c'est sur cet écart, sur la réduction de cet écart, que ces deux conférences d'art contemporain, de sensibilisation à l'art contemporain, vont tenter de travailler.
Alors, philosophons un petit peu tous les trois. Cet art contemporain qui ne semble n'avoir jamais été aussi près de ce qu'on est en train de vivre, on est dans un monde qui ne va pas très très bien. Donc ça doit être de l'art rude.
C'est un art qui nous parle de notre époque, mais qui peut aussi le faire avec humour, avec décalage, avec poésie, mais quelquefois aussi avec, en nous mettant le nez dans nos contradictions, dans les problèmes, oui. Comme le théâtre le fait par ailleurs, comme le cinéma
la musique aussi
le fait, et la musique durcie, aussi, ouais, voilà.
Ouais. Mais dans l'ensemble, justement, ce sont des arts qui se sont durcis, assombris un peu... qui sont devenus très rudes, les thématiques, les temps, voilà, l'état du monde.
Je ne sais pas, si on regarde l'histoire de l'art, je ne suis pas sûr que la liberté guidant le peuple ou les œuvres du Caravage étaient d'une grande légèreté.
Bah non, mais justement, voilà. Mais elles sont marquées d'une époque. Est-ce qu'on retrouve une époque un peu comme celle que vous venez de citer?
Ce qu'on retrouve dans l'art contemporain, c'est ce qui rend assez difficile son approche, c'est que... aujourd'hui, à la différence d'auparavant où il y avait des mouvements d'art très identifiés, l'impressionnisme, le fauvisme, le futurisme, le cubisme, etc. Aujourd'hui, on pourrait dire que chaque artiste, et moi je trouve que c'est fort bien, que chaque artiste est presque un mouvement d'art à lui tout seul. Donc ça correspond bien entendu au travers d'une individualisation de notre société, mais aussi à une richesse d'individus qui apportent leur regard sur le monde, qu'il soit politique ou poétique. Donc ça, c'est pas simple, parce que à chaque fois, il faut faire la petite démarche de se dire, cet artiste-là, quel est son langage? Par quel biais il va me dire ce qu'il a envie de me dire. Donc ça, c'est tout un travail.
D'éducation, donc.
D'éducation, oui. Est-ce que je vais deux apartés. En entendant Alain, je me dis... J'ai une image qui me vient. C'est comme un foyer. Quand on vient de l'entendre parler, on sent la passion.
Et encore, vous n'aviez pas l'image.
Et on n'avait pas l'image. Exactement. Vous n'aviez pas l'image, vous qui êtes tout. Écoutez, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui me paraît important, c'est, en l'entendant, c'est que je parlais de l'idée du foyer. Si on veut de la chaleur, on s'en rapproche. C'est-à-dire qu'on va, on va recevoir quelque chose. Et on en fera de cette chaleur, on va peut-être la dissiper tout de suite, ou on va essayer de la conserver, on va en garder la mémoire. En tous les cas, il y a ça. Ça permet de s'interroger. En entendant Alain, je me disais, en parlant du contemporain, il parle d'avant. Et en parlant du contemporain, il remet l'individu dans la potentialité qu'a chacun de s'en emparer. L'art, ça nous a toujours paru, et moi je suis bien placé pour en parler, comme quelque chose d'interdit. C'est bourgeois. Ouais, tout simplement, l'art, que ce soit la littérature, la musique.
Il faut bien avoir du temps à perdre, quoi.
Voilà, exactement. Donc, à un moment, il y a eu ce qu'on appelle des musiques populaires. Pourquoi c'est dévalorisant, d'ailleurs. Pourquoi, moi, je trouve que la classification n'a aucun intérêt. Il y a des musiques très diverses. Et voilà, on peut écouter, comme le dit si bien, d'ailleurs, Alain, on peut regarder Monet, mais on peut regarder, un artiste contemporain. Il y a quelque chose qui nous interroge, qui nous plaît ou ne nous plaît pas. Mais en tous les cas, il n'y a pas à faire nécessairement une classification.
C'est une bonne question. Est-ce que c'est intéressant, finalement? Est-ce que ce n'est pas uniquement parce que ces artistes sont contemporains, pour continuer à tirer le fil, qu'ils sont décriés éventuellement? Alors qu'on pourrait juste dire tout le monde est dans l'art, on s'en fiche un peu de son code de départ. Alors, les conférenciers, les intellectuels qui classent tous ces gens dans des cases?
Oui, oui, non, pas que. Par exemple, c'est vrai que c'est important d'identifier, au fond, quand on dit art contemporain, pourquoi un certain nombre d'artistes ne sont pas considérés comme faisant partie de l'art contemporain? Et faire partie de l'art contemporain, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est de qualité. C'est ce que j'essaye sans arrêt d'expliquer. C'est un peu la différence entre un artiste, plutôt classique, académique, ou qui reproduit des formes, et des artistes d'art contemporain. contemporain, c'est un peu la même différence, à mon sens, qu'entre le médecin généraliste et le chercheur médecin dans son laboratoire. Lorsqu'on va vers un médecin généraliste, on a envie que ce qu'il nous dit soit vérifié, soit déjà absorbé, soit académique dans le bon sens du terme. Mais aussi, on a besoin d'une recherche contre le sida, d'une recherche sur le cancer, d'une recherche sur les effets des huiles essentielles, que sais-je. On a besoin de médecins chercheurs.
Qui font des expériences.
Qui expérimentent. Eh bien, de la même manière, notre société a toujours eu besoin à la fois d'artistes qui sont dans le bon sens, dans la reproduction ou dans l'affinement de choses déjà convenues, déjà académiques. Et académique, ce n'est pas un jugement de valeur aussi négatif. Mmh. Et par ailleurs, d'artistes dont la démarche est une démarche d'expérimentation, de renouvellement des questionnements, de modification de ce qui est établi. Et c'est en cela que forcément l'art contemporain est un peu plus difficile et un peu plus exigeant à découvrir, parce que découvrir et comprendre les nouvelles recherches sur la biologie moléculaire, que sais-je, c'est moins facile que de prendre un aspirine pour son rhume.
Et ben voilà comment, avec un exposé, une conférence sur l'art contemporain, on va finir par parler quand même de société, et c'est bien toujours le cas de ces conférences, rencontres de Luc. Alors celles-ci, elles vont se passer à Die.
Alors voilà, oui, justement, là, c'est une année un peu charnière, peut-être, et peut-être qui préfigure encore d'autres évolutions l'année prochaine.
Oui, mais il ne faut pas abandonner Luc pour autant.
Ah non, nous n'abandonnons pas Luc, c'est le foyer des rencontres, et ça le reste encore cette année, mais... J'ai trouvé assez pertinent de faire en sorte d'abord que les conférences d'Alain se trouvent plutôt sur Die, de manière à offrir à un maximum de gens qui ne sont pas de notre côté, qui sont de l'autre, qui sont par exemple sur vers Cheny ou ce genre de choses.
Ah, je le garde.
Ouais, ça fera débat. Ces gens qui habitent dans ces régions, dans les confins quasi sauvages. Voilà, en tous les cas, de se dire, bah voilà, ça ouvrira peut-être un plus large public sur un sujet justement qui peut paraître, je dis bien paraître, rébarbative. Et si un certain nombre de gens ont entendu ce que vient de dire Alain, je suis convaincu qu'ils feront partie des personnes présentes pour ces deux conférences. Et donc voilà, on s'est dit, pour les deux conférences, je me suis dit que ce serait pertinent. Et dans le cas de Denis Lachaud aussi. Je me suis dit, garder le Luc comme lieu de conférence, mais... prendre la salle communautaire, en l'occurrence de l'SCDD, le lendemain, pour qu'il donne lecture de sa pièce. Voilà, à nouveau, parce que ce sera peut-être les mêmes publics, mais ça peut être des publics différents. L'idée, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait une large émulation et faire en sorte que tout ça se soit en mouvement. C'est pas non plus, c'est pas un bastion fermé. Luc n'est pas un bastion fermé. Donc ce qui est vrai cette année sera peut-être encore vrai sous une autre forme l'année prochaine. Et je crois que l'idée, c'est que ça soit vivant. Et aussi d'essayer de toucher des publics. On évoquait ça avec Alain, je l'évoquais encore il y a quelque temps avec Jean Rodalec en particulier. C'est ce qui manque, c'est les publics jeunes. Enfin jeunes, au sens le plus ouvert, l'âge étant, on va dire, adolescent. Et puis, bon, effectivement, il y a un clivage qu'on peut peut-être expliquer, mais on ne va pas rentrer dans le détail. C'est de se dire que si on est à Die, il y aura peut-être quelques personnes qui viendront pousser les portes. C'est toujours l'idée.
En tout cas, le public peut changer. C'est-à-dire que voilà, vous étiez avec un public, j'allais dire, d'habituel. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais des gens qui vous suivent là-haut à Luc, et puis il pourrait y avoir des gens qui vous suivent à Die. Donc ça va finir par multiplier le cycle de conférences. Chaque conférencier va devoir faire deux dates. Enfin, ça va devenir infernal.
C'est possible. Il y aura certainement des tournées d'organiser. On demandera à la radio dire...
Plus une salle à Vercheny pour l'avenir.
Mais nous, on est prêts à répondre à des... Effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire, tiens, il y a des gens qui...
Voilà, quand on fait venir un conférencier, c'est vrai que ça pourrait être l'occasion de faire trois dates d'affilée.
Pourquoi pas j'avais proposé dans un autre cas à la librairie de Saillant, par exemple, d'accueillir Denis le samedi matin. Bon, il se trouve que la proposition n'a pas été retenue, mais voilà, cette idée-là, elle peut se reformuler autrement. Toutes les idées sont bonnes. Moi, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à les brasser. Après, il faut voir si elles sont pertinentes, réalisables en fonction des moyens. Il faut se souvenir que les conférences de Luc, elles se financent, elles s'autofinancent. C'est la participation des personnes qui viennent, qui sont auditeurs et auditrices, qui permet de continuer, de persévérer dans cette voie. S'il n'y a plus personne dans la salle, on ferme la boutique. Puis voilà, terminé. Mais l'expérience aura existé. Nous n'en sommes pas là!
Mais non, pas de négativisme. Mais
non, pas du
moi,
tout.
C'était plus pour que si des auditrices, auditeurs nous entendent et ont envie d'organiser une conférence, on peut te joindre et
les rencontres de Luc,
mutualiser les...
Les rencontres de Luc, @orange.fr, n'hésitez pas à envoyer des propositions de conférences. C'est déjà l'année prochaine, il faut déjà l'envisager. Donc, si vous avez des idées ou des intervenants, je sais qu'on m'a proposé récemment une philosophe qui habite, qui s'appelle Émilie H, que tu connais peut-être, qui s'est installée, je crois, sur Die. Voilà, je l'ai sollicitée, mais il se trouve qu'à la date où je la sollicitais, elle n'était pas disponible, peut-être l'année prochaine. Enfin, parce qu'il y a vraiment un tissu, et des gens qui sont aussi invisibles, qui se rendent pas, qui ne veulent pas être visibles. Mais voilà, et peut-être, il faut aussi respecter leur volonté.
Bah oui, Alain Livache...
Ah, moi, je viens avec un masque.
Il s'expose,
voilà. Je tranquille à Valdrome, du coup, on...
Je vais venir avec un masque pour rester invisible.
Bon, on donne un peu les dates, alors, parce que donc, cette première conférence dont on a beaucoup parlé, donc le 11 octobre, voilà, c'est la première.
Luc en Iowa, à 20h, comme d'habitude, à la salle du conseil
Rappelle-nous
municipal.
Rappelle-nous le thème.
Le thème, c'est l'écriture, la parole et le silence. Voilà, qui font trois composantes qui nous parlent, mais qui parlent encore plus aux écrivains, et en l'occurrence à Denis Lachaud, puisqu'on a fait un sujet. Et le lendemain, le 12, donc, c'est à 17h30, à la salle communautaire de l'ESCDD, une lecture de sa pièce qui s'appelle « La magie lente », en présence de Jean Rodalec, qui est psychanalyste. Cette pièce est déconseillée aux personnes de moins de 16 ans, le sujet étant un sujet sensible, mais qui malheureusement touche de jeunes enfants souvent. Je l'évoque à mots couverts, mais je pense que ce que je viens de dire doit parler à certains, qui régulièrement d'ailleurs donne à la presse des moyens d'en parler. C'est une écriture extrêmement, justement, il en a fait un objet d'un événement qui suscite l'émoi, l'émoi justifié d'ailleurs, il en a fait un objet. Et à travers, en fin de compte, le parcours d'un homme qui vient voir un psychanalyste parce qu'il souffre de quelque chose qu'il n'identifie pas. Et au fur et à mesure de sa venue, il va découvrir la raison de ce qu'il pense être des hallucinations. Voilà, je vous laisse deviner. D'ailleurs, si les personnes qui souhaitent avoir une information complémentaire sur ce que je viens d'évoquer, les rencontres de Luc, @orange.fr. Je communiquerai donc un ensemble d'éléments qui permettront à chacun de comprendre un peu mieux ce que je viens de dire. Le vendredi 29 novembre, projet de développement entre guillemets et dialogue de création avec un village de Gon du Nord Mali. Entre parenthèses, 1999-2009. C'est une conférence qui sera donnée par Yves Bergeret, qui se présente d'une manière un petit peu particulière comme poète plasticien. Donc c'est aussi une démarche... la thématique donne une notion plus anthropologique, mais il l'est largement.
Enfin, 10 ans d'enquête.
Voilà, déjà
en
enquête,
ça se permet.
À travers les entretiens qu'on a déjà eus, c'est extrêmement passionnant. Et là, on touche à des problèmes qu'on connaît d'une certaine manière à travers un autre sujet qui est prégnant, c'est l'immigration. Même si ce n'est pas le cas, mais c'est aussi des cultures différentes, une manière d'envisager le monde différent, des pratiques différentes. Donc c'est aussi à la découverte de l'autre et de comprendre un peu mieux l'autre, chose qui effectivement aujourd'hui, même dans nos sociétés, fait qu'on a de plus en plus de difficultés à s'entendre sur des sujets. Il n'y aura pas de conférence. Nous avions en principe un conférencier en décembre, j'en parle très rapidement, ce sera peut-être pour l'année prochaine, je le souhaite, qui s'appelait Jean-Marc Lévy Leblon, qui est un physicien dont certains connaissent le nom. Malheureusement, il ne sera pas présent, à notre grand regret, mais qui sait, peut-être l'année prochaine. Et puis, bah, on sera déjà au janvier. Et là, ça concerne directement Alain Livache. Ce sera sa première conférence sur cet art que l'on dit contemporain. Et donc, ça aura lieu à la salle communautaire à Die, comme je viens de l'évoquer pour ouvrir plus largement au public. Et ce sera à 18h le samedi. On s'est dit que c'était un bon moment. Ça ouvre à un large public. Et 18h, c'est une heure où on a fait un certain nombre de choses de sa fin d'après-midi. On n'a pas commencé sa soirée. Je vais évoquer peut-être directement la deuxième, puisque comme ça permettra aux gens qui souhaitent le noter dès à présent. Donc le 11 janvier à 18h et le 25 janvier à 18h également pour la deuxième partie. Et je laisserai...
Voilà, c'est ça Alain, c'est deux parties différentes.
Voilà.
C'est deux parties différentes mais complémentaires. Le public est largement invité à se farcir les deux.
Voilà, c'est ça. Et donc si on en rate une des deux, on perd quelque chose. Si on arrive au milieu de la deuxième...
On perd un petit peu, il y a un acte 1 et un acte 2 en gros. Voilà. Mais autrement, on peut toujours prendre en route. Ça serait dommage par rapport à l'articulation de mon propos et des débats qui vont avoir lieu dans l'une et l'autre conférence.
Est-ce que c'est des conférences que tu as déjà menées ?
Oui, ce type de conférences, oui, je les ai déjà menées. Je les adapte ensuite à chaque fois au contexte, au territoire aussi. Par exemple, là, parmi les exemples que je vais donner, je m'appuierai aussi autant sur des artistes internationaux que sur des artistes passionnants qui vivent et travaillent ici, dans le Diois, par exemple.
Ouais, voilà. Des gens vont découvrir leurs voisins.
Peut-être bien.
Bien sûr.
Voilà. Pourquoi cette question ? C'était parce que, est-ce que justement, il y a des clichés sur l'art contemporain sur lesquels il faut systématiquement se battre ? Des questions récurrentes qui reviennent, qu'on pourrait tuer ici maintenant pour ceux qui nous écoutent. Ne la posez pas, on y répond maintenant.
Voilà. Oui, en tout cas, il y a des clichés sur lesquels il ne faut pas se battre. Il faut les prendre comme au demeurant légitimes. Parce qu'on vit dans un monde, justement, où l'approche de l'art contemporain est accaparée par des histoires d'argent qui sont complètement accessoires par rapport au fait même culturel, des difficultés qu'on a tous vis-à-vis de la nouveauté, de l'innovation, de ce qui est un petit peu étrange, et puis du rapport à la beauté qu'on peut avoir. Depuis le début du XXe siècle, l'art peut avoir quelque chose à voir avec la beauté, mais une grande partie de l'art s'est affranchie de la notion de la beauté comme de la notion de la laideur pour justement explorer d'autres voies d'expression et de création. Par exemple, voilà, donc il y a à faire un travail ensemble de défrichage, de décodage, mais qui est souvent tranquille et on s'aperçoit que l'art contemporain est beaucoup plus simple qu'une œuvre du Caravage, qu'une œuvre d'un artiste dont on imagine que tout va bien parce qu'on repère des choses déjà connues, parce que c'est un langage admis. Moi, je pense souvent à l'exemple du Saint-Grégoire de Rubens, et c'est une œuvre, lorsqu'on se met devant, on se dit, bon, bah voilà, c'est un truc un peu simple, il y a un pape et petits angelots. Lorsqu'on fait venir un historien de l'art pour nous dire ce que c'est que cette œuvre-là, il pourrait faire 3 heures de conférence dessus, et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué, un télo...
Il y a des calculs savants...
Que des œuvres d'art contemporain qui nous paraissent bizarres et intello, etc. Non, de tout temps, les arts plastiques ont besoin d'une contextualisation, d'un certain nombre d'informations et d'accompagnement.
Et puis bon, globalement, on peut dire, les artistes, ils aiment bien se prendre la tête un peu. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être parfois compliqué ou inaccessible.
Peut-être certains, mais moins qu'on ne le pense.
On poursuit, Christian,
oui,
après ces rendez-vous de janvier.
Et en plus, entre les deux conférences d'Alain que je viens de donner, le vendredi 17 janvier, nous aurons... on va continuer dans les arts plastiques, puisque parler de la couleur, je viens de mettre un point d'interrogation, ça s'entend très nettement, point de vue physique, physiologique, culturel, symbolique, philosophique, littéraire, On voit qu'un simple mot nous ramène à des éléments extrêmement différents et une manière de l'envisager d'une manière extrêmement différente. Et ça rejoint, je trouve, le propos d'Alain. C'est la complexité. Effectivement, la simplification fait que voilà, c'est à nouveau de mettre de la complexité, et non pas d'avoir des... On peut avoir des points de vue, ça c'est important, on peut avoir des réflexions, mais étayées. Et ensuite, nous serons déjà au mois de février. Et il ne fait pas chaud en règle générale. C'est pour ça que nous aurons une conférence qui s'appelle « La couleur vibrante » de Nicolas de Staël. Voilà, qui va nous réchauffer, surtout que la couleur chez Nicolas de Staël, c'est quelque chose d'assez merveilleux, extraordinaire.
Qui pète à la gueule.
Ça, voilà, exactement. Et donc, c'est vrai qu'au mois de février, on n'avait pas pensé à ça, mais ce sera une très bonne chose. Et voilà, peut-être que des gens qui seront venus aux deux conférences d'Alain, nous suivrons également dans cette conférence. Et puis, on ira d'une certaine manière fricoter avec l'histoire de l'art, avec Peter Bruegel, avec une conférence de Laurent Bove qui aura pour titre « Les jeux d'enfants en deux points, une société sans domination ou l'image de l'éternité ».
Ça, c'est pour le mois de mars.
Ça, c'est pour le mois de mars, c'est le vendredi 13 mars. Ensuite, revenons à des problèmes contemporains. Nous serons le vendredi 3 avril. Laïcité, histoire et avenir. Conférence donnée par Gérard Boucher. J'ai peut-être oublié de préciser que la conférence du mois de février était donnée par Laurence Croton. Donc Gérard Boucher, laïcité, histoire et avenir. Et la laïcité, nous y sommes confrontés depuis au moins une dizaine d'années. On se repose.
Ça devient ce débat.
Voilà, récurrent. C'est peut-être un peu comme on dit certains, c'est peut-être un marronnier aussi de temps à autre. Il y a des voiles qui ressortent, donc ça y est. la laïcité est en danger. Elle est peut-être en danger. En tous les cas, ce sera une des questions qu'on pourra évoquer ou des questions qu'on pourra se poser. Et puis pour faire un pendant, et il se trouve que c'est l'organisation les emplois et du temps de chacun, le vendredi 15 mai, nous en viendrons à nous poser la question « Pourquoi les religions ?» qui font pendant à la question de la laïcité. Donc il est intéressant aussi de mettre peut-être ces deux conférences en rapport. Et nous finirons le vendredi 5 juin, par une conférence donnée par Alain Chaffel. Je précise que la conférence sur les religions sera donnée par Gérard Bras, et celle du 5 juin sera donnée par Alain Chaffel, qui aura pour titre « La puissance chinoise face au monde ». Nous fêtons aujourd'hui le 75e anniversaire de la Révolution, dans un faste incroyable. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Enfin, c'est Disneyland. C'est incroyable. Et on verra où on en est, puisqu'on aura peut-être... Nous sommes au mois d'octobre, au mois de juin, que sera Hong Kong.
C'est ça, oui, parce que j'allais dire, l'actualité, c'est surtout que ça bouge un peu avec cette île.
Et que sera la face du monde. Je crois que c'est vraiment ça. Ce sera une question... On est très loin, mais quand on voit les... J'ai entendu les propos de M. Xi Jinping... On peut avoir des surprises malheureusement désagréables, mais on va penser que la philosophie dominera et que chacun retiendra...
Le yin sur le yang, c'est ça?
Voilà, exactement. On aurait dû prévoir une conférence supplémentaire. Voilà, le programme, vous venez de l'entendre. À nouveau, je le répète, c'est pour la troisième fois, mais il vaut mieux plus que passer. Si vous souhaitez l'avoir directement sous vos yeux, sous votre regard, les rencontres de la rue, @orange.fr. Voilà.
Et il y a quand même un site aussi sur lequel
il y a un site, les blogs, les rencontres de Lug, voilà. Blogspot, qui vous permettront, comme je l'évoquais au départ, de croiser tous ceux et toutes celles qui sont déjà venus nous rencontrer et pour également découvrir leurs conférences ainsi que les entretiens que nous avons pu avoir.
Alain Livache sur l'art contemporain, Christian Lecorvic pour les rencontres de Lug. Merci à tous les deux.
Eh bien, merci.
Bonne saison et on continuera à suivre ça, bien sûr, puisque on enregistre les conférences et on fait des petits retours sur cette antenne, grâce notamment à toi, Christian, qui fait des interviews des conférenciers que reçus.
Très bien, l'oreille attentive de mon mentor. Oui. Baptiste.
Toujours très mauvais, alors du coup, je le mets quand même pour faire plaisir.
On devient un bon élève en ayant de bons professeurs. Merci à tous. Merci. À plus tard.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.